France Culture.
L'heure du journal de la rédaction. Bonsoir Estelle Camerer.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à toutes et à tous. Direction la Serbie, en début de ce journal. Des milliers de manifestants se sont rassemblés en hommage aux victimes de l'accident mortel de la gare de Novi Sad il y a un an. Accident qui a lancé une vague de manifestations anticorruption dans tout le pays. 5 nouveaux morts dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a repris les tirs après avoir affirmé que les 3 corps remis par le Hamas n'étaient pas ceux des otages du 7 octobre. L'un des 2 policiers accusés de viol au dépôt du tribunal de Bobigny a été mis en examen pour viol aggravé et écroué. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Il y a un an, jour pour jour, la 2e plus grande ville de Serbie, Novi Sad, tremblait. Le haut vent du parvis de la gare s'est effondré et a causé la mort de 16 personnes. Depuis, les manifestations contre la corruption sont quotidiennes dans le pays, en particulier chez les étudiants. Aujourd'hui, près de 100 000 personnes se sont réunies pour commémorer les victimes. Un hommage symbolique qui a débuté par 16 minutes de silence. Sur place, Laurent Rouy.
Les manifestants soutiennent les étudiants qui dénoncent la corruption du pouvoir, réclament une enquête transparente et des élections anticipées. Nebojša, un habitant de Novi Sad, est venu en famille.
On veut montrer qu'on est solidaire de ceux qui souffrent à cause de la mauvaise politique. Hélas, les 16 personnes qui ont péri à cause de l'effondrement de la gare de Novi Sad ne sont qu'une minorité face à ceux qui meurent ou qui souffrent à cause du système de santé catastrophique et de la corruption.
Une nouvelle a créé la surprise. Le président Vučić, qui avait accusé les étudiants de terrorisme, a présenté ses excuses aux manifestants. Svetlana n'est pas impressionnée.
C'est trop tard, sa parole ne vaut plus rien. Ça fait longtemps qu'il a perdu toute légitimité. Il ferait mieux de convoquer des élections.
Malgré les rassemblements massifs organisés depuis un an, le président n'a presque rien concédé. Ivana, une avocate de Belgrade, souhaite que les manifestants soient soutenus.
Les étudiants, les jeunes n'y arriveront pas seuls. Ils doivent être soutenus. Ces manifestations, c'est la démocratie. Si l'Union européenne soutient vraiment les valeurs démocratiques, elle doit aider ces démocraties.
Le rapport de force a évolué depuis une résolution très sévère du Parlement européen sur la Serbie. Mais le président Vučić semble toujours en mesure de résister à la pression de la rue. Il refuse d'organiser des élections qu'il a toutes les chances de perdre.
Laurent Rouy en Serbie. Et pas de cessez-le-feu à Gaza, où le ministère de la Santé gazaoui compte 5 nouveaux morts dans l'enclave. Un bilan fait après des tirs de l'armée israélienne, ainsi que des frappes aériennes autour de Ran Younes dans le sud. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Estelle, bonsoir à tous.
En direct de Jérusalem pour France Culture, ces nouveaux raids interviennent après l'annonce officielle de l'armée israélienne ce matin qui affirme que les 3 corps remis vendredi par le Hamas n'étaient pas ceux des otages enlevés le 7 octobre.
Oui, selon l'Institut médico-légal israélien, ce sont en fait les corps de 3 Palestiniens qui ont été transmis hier et que l'armée israélienne va restituer à Gaza, toujours par l'intermédiaire de la Croix-Rouge internationale. Israël a reconnu dès hier soir que la probabilité qu'il s'agissait de restes mortels d'otages était faible. Alors, c'est un sujet délicat qui provoque de vives tensions ici, particulièrement, bien sûr, de la part des familles d'otages. Mais des responsables politiques estiment que le Hamas a accès au corps d'autres otages qu'il ne rend pas, ce qu'Israël considère comme une violation de l'accord de trêve. Israël accuse le Hamas de manipulation. Le groupe palestinien rétorque qu'il faut du temps pour localiser les corps sous les ruines de Gaza. À ce jour, sur les 28 otages décédés prévus par cet accord négocié par les États-Unis, 17 dépouilles seulement ont été restituées. Les États-Unis ont demandé à Israël de faire preuve de patience sur ce sujet. Et il faut rappeler aussi que, selon l'accord, pour chaque corps d'otage rendu, Israël doit remettre 15 corps de Palestiniens, soit un total de 255 jusqu'à présent.
Merci à Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture. 550 000 Syriens réfugiés en Turquie ont pu rejoindre leur pays. D'après les annonces du ministre turc de l'Intérieur, des retours permis par la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre dernier. Au total, plus de 2 millions de Syriens sont réfugiés en Turquie. Leur nombre avait dépassé les 3 millions au plus fort de la guerre en Syrie, selon les autorités turques. Aucun représentant américain de haut niveau ne se rendra à la COP30 de Belém au Brésil, qui commence le 10 novembre et dure jusqu'au jusqu'au 21. Les déclarations d'un responsable de la Maison Blanche. Washington se justifie en expliquant que Donald Trump dialogue directement avec les dirigeants du monde entier sur les questions d'énergie. 10 ans après la COP à Paris, celle du Brésil a une valeur symbolique et le boycott du président américain aussi. Pour rappel, Donald Trump s'est retiré de l'accord de Paris une nouvelle fois dès son arrivée en fonction en janvier dernier. Après 20 ans d'attente, le grand musée égyptien a été inauguré au Caire avec un objectif, reprendre en main l'égyptologie, discipline trop longtemps réservée aux instituts européens. Aujourd'hui, l'Égypte veut reconquérir son patrimoine archéologique grâce à une nouvelle génération d'universitaires qui pourront profiter d'un musée à la hauteur de leurs ambitions. Reportage sur place de Martin Dumas-Primbaud.
Khaled Razab, professeur d'archéologie et ancien chef de projet à la bibliothèque d'Alexandrie, dresse un constat mitigé sur l'état actuel de l'égyptologie dans le pays.
Rendez-vous compte, la plupart des chercheurs expérimentés, ceux qui représentent un véritable espoir, sont partis à l'étranger.
L'archéologue attend beaucoup du grand musée, mais reste prudent.
Le musée annonce une série de programmes de recherche et la publication d'une revue scientifique. C'est une fonction fondamentale du musée, mais pour l'instant tout cela reste flou. Pour être honnête, grâce au grand musée, une nouvelle génération travaille non pas en égyptologie, mais en restauration d'antiquités. Les compétences acquises sont bien réelles, mais il nous faut aussi les diffuser afin que ces personnes reçoivent la reconnaissance qu'elles méritent.
Pour son collègue Zahi Hawass, ancien ministre des Antiquités, le musée est aussi une manière de prendre une revanche sur l'histoire.
Avant, l'égyptologie était dominée par les Allemands, les Américains, les Français. Aujourd'hui, nous reprenons enfin notre place.
À 78 ans, le médiatique archéologue est à l'origine de plusieurs pétitions pour le retour des artefacts exposés à l'étranger.
Une pour le retour de la pierre de Rosette du British Museum et le Zodiac du Louvre, une autre pour le buste de Nefertiti à Berlin. Le Louvre, je peux leur dire qu'ils ne savent pas protéger leurs monuments, alors qu'ils nous les rendent.
Aujourd'hui, les universités égyptiennes multiplient les programmes d'égyptologie et attirent un nombre croissant d'étudiants.
Vous écoutez France Culture, il est 18h07. Sébastien Lecornu est toujours sous pression malgré des concessions accordées à la gauche. Si la taxe Zucman sur la taxation des ultra-riches a été rejetée sans surprise hier, comme sa version allégée proposée par le PS, une autre mesure a été adoptée contre l'avis du gouvernement, celle de la transformation de l'impôt sur la fortune immobilière, IFI, en impôt sur la fortune improductive. Le texte a été adopté grâce à une alliance entre le PS, le Modem et le Rassemblement National. Le député PS Philippe Brun se félicite d'un retour de l'impôt sur la fortune, taxe supprimée en 2018 par Emmanuel Macron, mais le flou budgétaire reste complet. Quand le tribunal devient le lieu du crime, ça se passe à Bobigny. Deux policiers sont accusés de viol par une jeune femme de 26 ans au dépôt du tribunal. L'un d'eux a été mis en examen cet après-midi pour viol aggravé par personne ayant abusé de l'autorité que lui confère ses fonctions. Bonsoir, Mercia Nezic.
Bonsoir, Estelle.
Le policier âgé de 35 ans a été écroué.
Et les faits se seraient produits dans la nuit du mardi à mercredi. Une jeune femme de 26 ans s'apprêtait à être déférée devant le tribunal de Bobigny. Elle devait répondre des faits de soustraction à ses obligations parentales. Et la plaignante affirme avoir été violée par deux policiers là, dans une des cellules du dépôt du tribunal. Les deux fonctionnaires évoquent de leur côté des relations sexuelles consenties. Ils ont été placés en garde à vue jeudi. L'un des deux avait filmé la scène. Le dépôt où les faits reprochés se sont déroulés pointé du doigt pour son insalubrité depuis des années. Le dernier rapport du contrôleur général des lieux de privation décrit des lieux indignes, des locaux qui doivent être refaits à neuf. Il y a urgence, affirme Stéphane Maugendre, avocat au barreau de Bobigny et vice-président du syndicat des avocats de France. Il était au micro de nos confrères de France Info.
Les travaux au tribunal judiciaire de Bobigny ne sont pas terminés. Ce sera encore dans quelques années. Ce que nous voulons au syndicat des avocats de France, c'est que c'est dès aujourd'hui on trouve des solutions pour que les personnes soient retenues de façon digne et qu'ils ne risquent pas d'être maltraités ou violés par les services qui sont en charge justement de les surveiller.
Est-ce que les faits auraient pu être filmés par des caméras de vidéosurveillance? Il y a de la vidéosurveillance au dépôt de Bobigny, mais est-ce que ça marche, s'interroge l'avocat. L'enquête en cours confiée au parquet de Paris devrait nous apporter une réponse. Le tribunal de Bobigny s'est dessaisi de l'affaire Estelle.
Merci, merci à Nezic. Et deux personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire dans l'enquête sur le casse du Louvre, dont le butin a été estimé à 88 millions d'euros. Un homme de 37 ans a été mis en examen pour vol en bande organisée et une femme de 38 ans pour complicité. Trois autres gardes à vue ont été levées sans poursuite. Un mot pour le temps, sur le temps pour finir. La soirée sera couverte sur la majorité du pays avec de la pluie sur la moitié sud. C'est la fin de ce journal réalisé par Caroline Beneteau, Noé Chaban à la technique.